Alors, je m'appelle Thomas, j'ai une passion dans la vie qui est les volcans, plus particulièrement les volcans en éruption, parce que sinon c'est un peu moins intéressant. J'adore me retrouver dans ces paysages de fin du monde, face à face avec ces espèces de gros monstres qui façonnent la planète. Et j'ai toujours été fasciné par ça, alors j'en ai pas fait mon métier, et donc je m'étais toujours dit, bah en fait, pas volcanologue, donc approcher de près. Les volcans, ça sera pas pour toi. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai découvert que si, c'était possible. J'ai commencé doucement avec des volcans proches de chez nous, comme le Stromboli. Et puis en 2017, je suis rentré en éruption, finalement. J'ai posé 2 mois de congé sans solde. Et je suis parti faire un tour du monde des volcans en éruption dans la planète. Et une des étapes de ce voyage qui m'a vraiment marqué à vie, c'est le Vanuatu.
Vous écoutez Bourlinguer. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Thomas raconte le Vanuatu. Avec lui, on a parlé de volcans, d'alcool local et d'un étrange culte.
J'ai bourlingué à travers le monde. Le Vanuatu, c'est un archipel qui est au large de la Nouvelle-Calédonie, à environ 500 km. Autrefois, on les appelait les Nouvelles Hébrides. C'était une colonie franco-anglaise, jusqu'à leur indépendance dans les années 80. Et c'est vraiment l'archipel volcanique par excellence. Je crois qu'il y a plus de 80 îles. Quasi toutes sont des volcans. Il y a 7 volcans actifs. Et j'ai défini un itinéraire qui doit me permettre en fait, de visiter 3 volcans qui étaient ceux qui, à l'époque, étaient en éruption. Donc il y avait le Yasur sur Tana, qui est l'équivalent en fait, du Stromboli au Vanuatu, qui est un volcan très connu parce qu'il est actif depuis que Cook l'a découvert à la fin du XVIIIe siècle. Il y a les jumeaux de l'île d'Ambrim, au milieu de l'archipel, le Bembo et le Maroum, qui, eux, avaient la particularité d'avoir en fait, des lacs de lave. Et un peu plus au nord, le volcan de l'île d'Ambae, le Landbenben, qui lui était plutôt un monstre caché, parce que lorsque je suis allé le visiter, c'était l'île paradisiaque, la jungle, et puis tout en haut, un lac turquoise, qui, à peine 6 mois après mon passage, en fait, est rentré en éruption et a recouvert toute l'île de cendres grises et a forcé l'évacuation des milliers d'habitants qu'il y avait sur cette île. Et donc j'arrive au milieu du mois d'avril 2017 sur l'île de Tana avec un de mes amis que j'ai réussi à embarquer dans cette histoire un peu folle, parce que j'ai pas beaucoup d'amis qui, lorsque vous leur dites « on va aller voir 3 volcans au milieu du Pacifique », acceptent de vous accompagner. On retrouve notre guide, parce que c'est aussi suicidaire d'aller sur un volcan sans quelqu'un qui connaît les lieux sur place. Et Tana, en fait, c'est la bonne introduction au Vanuatu, j'ai envie de dire, parce qu'on est au Vanuatu. Mais ça reste une île encore relativement touristique. La piste d'atterrissage est en dur, on a pris un ATR pour y aller, c'est la seule piste d'atterrissage en dur que je verrai de tout le voyage en dehors de la capitale. Et on prend un 4x4 qui doit nous emmener du coup dans le sud de l'île, à Port Resolution, un petit village. Le voyage se passe bien, et puis au détour d'une colline, en fait, le paysage se transforme. On arrive devant une plaine de cendres grises. Et à côté, il y a un petit cône qui fumote tranquillement et on se retrouve face au Yasur. Alors évidemment, bon, on prend nos quartiers, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir de plus près. Il y a 2 manières d'aller au Yasur, en fait. On peut y aller à pied, à l'ancienne, et on peut aussi y aller en 4x4. En fait, il se trouve que vu que c'est encore relativement touristique et que c'est qu'à 3 heures de vol de l'Australie, il y a beaucoup d'Australiens qui viennent voir ce volcan. Et donc les locaux ont construit une route qui va quasi jusqu'au sommet. Ils ont installé un escalier pour les derniers mètres. Il y a une boîte aux lettres qui est installée au pied de l'escalier, donc on peut acheminer sa carte postale avec le petit tampon Yasur. Mais le problème, c'est que moi, en fait, donc à cette étape de mon voyage, j'ai déjà fait plusieurs volcans et j'ai un petit côté superstitieux. Je pense qu'en fait, un volcan, ça se mérite. Je m'imagine le dieu Vulcain tapis à l'intérieur des entrailles du cratère. Et je me dis qu'a priori, il aura quand même un petit peu plus de respect pour quelqu'un qui a fait l'effort d'y aller à pied, plutôt que quelqu'un qui prend un 4x4 pour aller directement là-haut. Mais il y a une deuxième difficulté qui est qu'au Vanuatu,
la notion de propriété de la terre, c'est un truc qui est ultra important. Donc peu importe où on aille, il faut demander l'autorisation au chef de la tribu, il faut demander l'autorisation au propriétaire, et toutes les parcelles sont la propriété de quelqu'un. Il n'y a pas de domaine public, et donc il faut absolument respecter ces règles qui s'appellent là-bas la coutume, pour pas commettre d'impair. Et donc, évidemment que pour les locaux, le volcan est aussi un petit peu une manne touristique, donc on ne peut pas se permettre non plus de faire une croix directement sur le 4x4, hein, au risque de se faire choper là-haut, et que les gens se rendent compte qu'on n'a pas, respecté, ou on n'a pas payé ce qu'il fallait payer, etc. etc. Et donc finalement, on choisit de faire les deux. On va d'abord monter tout seul, on descendra, et ensuite on ira prendre le 4x4, pour le coucher de soleil. Et donc, pour y aller au début, on va demander l'autorisation, et donc on va dans un petit village, qui est probablement à 10 minutes à pied du volcan. Le village s'appelle Lamacara. On suit une petite rivière qui nous amène jusqu'à des petites cases disséminées, la place centrale du village. Et là, on a une vision absolument surprenante. On tombe sur un drapeau qui flotte, et c'est le drapeau américain. Et donc, en fait, la tribu voue un culte à quelqu'un qui s'appelle John Froom. C'est un culte qui est assez commun dans le Pacifique, qui s'appelle le culte du cargo. Et il se trouve, en fait, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Américains ont installé une base sur l'île de Tana, avec toute l'abondance des biens qui va avec, les avions, etc. Bon, évidemment, pour une tribu qui n'avait jamais vu d'avion, qui n'avait jamais vu de jeep, qui n'avait jamais vu de radio, de téléviseur, c'est effectivement comme si un dieu nouveau s'immisçait dans leur quotidien. Et donc, depuis que les Américains sont partis, la tribu attend le retour de John Froom, l'Américain. Mais c'est vraiment hallucinant, c'est-à-dire que c'est à tel point que le seul bâtiment qui est construit en dur dans le village, en béton, c'est le musée où ils stockent les uniformes, et une fois par an, ils mettent ces uniformes et ils font une cérémonie. Tous les matins, il y a le lever du drapeau. Et dans cette case en béton, il y a le chef du village qui est pris en photo dans l'uniforme de la Royal Navy ou la US Navy, le drapeau américain en fond. Et on a un temps d'échange avec lui autour du déjeuner qui est absolument incroyable, parce que d'un côté, on est vraiment perdu au milieu du Pacifique à manger avec lui un repas en plus très frugal, hein, c'était du manioc avec un petit peu de coco, mais il nous raconte qu'il est quand même allé à Washington. Et qu'il a été reçu par des officiels du gouvernement américain, et qu'il n'a pas aimé parce que vraiment il y avait trop de bruit. Donc c'était vraiment un moment assez incroyable, et bon, on lui demande l'autorisation du coup. Alors il se trouve qu'en plus, le volcan est omniprésent en fait dans leur vie, et donc ils sont convaincus que c'est par le cratère que passe John Froom pour faire des allers-retours entre l'Amérique qui est effectivement aux antipodes, et le village de Tana, et donc on lui demande est-ce qu'on peut y aller, et donc il nous donne l'autorisation pour aller faire l'ascension. Et donc après le déjeuner, bon, on y va. Alors, il se trouve que l'Iassour, c'est un petit volcan. Il fait 300 mètres de haut. C'est pas grand-chose. Sous la chaleur des tropiques, juste après le déjeuner, c'est quand même un sacré effort. Et plus on monte, plus on se rend compte qu'en fait, on est bien sur un volcan actif, et qu'un volcan actif, ça reste dangereux. Donc, le début de l'ascension se fait sous les cocotiers, et très régulièrement, on tombe sur une clairière, parce qu'il y a une immense bombe volcanique qui a choisi d'atterrir là. Et on se dit qu'il faut quand même rester un petit peu vigilant. Et plus on monte, plus on entend le bruit. Et on finit par arriver dans la dernière montée, qui est que des cendres, où vous faites un pas, vous reculez de deux. Et on finit malgré tout par arriver sur le bord du cratère. Et là, on voit deux bouches. Une qui est très dégagée, qui fait un bruit d'enfer à chaque fois qu'elle choisit de cracher ses bombes. Et l'autre qui, on a l'impression, est en plein ramonage, presque. Les cendres qu'elle émet retombent dedans, donc il y a une espèce de volute en permanence qui se dégage. Et en fait, la cendre est tellement épaisse que ça atténue les sons, et donc on n'entend même pas lorsqu'elle émet une bombe. On choisit prudemment de s'éloigner un petit peu de celle-là, parce qu'on n'aurait pas envie qu'un projectile perdu choisisse, sans nous prévenir, de nous prendre pour cible. Et donc là, on est en milieu d'après-midi, c'est déjà super joli, puisque vous avez toujours ces morceaux de roche, hein, qui s'élèvent dans le ciel. Mais il fait plein jour, le soleil est ultra haut dans le ciel, et donc ce qu'on voit, c'est relativement noir. On ne voit pas l'incandescence encore de la lave à ce moment-là. Et de facto, c'est même un petit peu dangereux, parce que de jour, on voit moins bien ces projectiles-là, et il ne faudrait pas non plus que, on soit aveuglé par le soleil au moment où il faudrait qu'on garde l'œil sur un qui risquerait de s'écraser près de nous. Donc on choisit de redescendre dans la pente de cendre. Alors ça prend une heure pour monter, ça prend 10 minutes pour redescendre, c'est toujours l'exercice ultra frustrant. Et on descend, et on revient plus tard dans la journée, du coup, en 4x4, et là le volcan est presque métamorphosé, en fait. Non seulement parce que, du coup, le soleil est plus bas et on voit vraiment le rouge de ces roches qui s'élèvent, et on voit au fond du gouffre cette matière liquide qui s'agite, la bulle qui arrive, qui explose tout, et qui envoie ça comme des boulets de canon à des vitesses absolument vertigineuses. Mais en plus, le volcan est beaucoup, beaucoup plus actif, beaucoup plus énervé. Et donc, on doit être ultra vigilant, parce qu'il faut vérifier la trajectoire de ce qui arrive pour éviter que ça nous atterrisse dessus. C'est un exercice même un peu particulier, parce que le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire « bon, bah, je cours ». Et en fait, non, il faut garder l'œil sur ce qui arrive et puis choisir de s'écarter au dernier moment si jamais il y en a un qui choisit d'aller vers vous. Et en fait, c'est des sensations absolument uniques. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vu, c'est indescriptible. Moi, c'est vraiment l'endroit où je pense qu'on peut voir ça de plus près. Et c'est un truc, ça vous imprègne et ça vous prend aux tripes, quoi. Il y a eu un moment, en fait, où on était... la lève du cratère, par endroit, évidemment, très fine. Et vous n'avez pas envie de tomber dans le cratère, vous n'avez pas non plus envie de tomber de l'autre côté, parce qu'en fait, c'est tellement raide que voilà. Et donc, la seule solution, parce que les explosions étaient tellement fortes par moment, que l'onde de choc menaçait, en fait, de nous déstabiliser. Donc, on s'est allongé, en fait, sur la lève du cratère, on avait la tête avec le casque qui dépassait pour regarder ce qui se passait. Et lorsque vous êtes comme ça, allongé sur le volcan, les ondes de choc vous arrivent dans la poitrine, vous voyez les explosions, et il y en avait certaines qui duraient, mais 20 secondes, 30 secondes, et on se dit, mais c'est la fin du monde, quoi. Et on est partagé entre le fait de se dire, bon, il faudrait quand même vraiment que ça s'arrête, là, ça commence à devenir un peu inquiétant, et finalement le fait que c'est tellement exceptionnel et c'est tellement beau que ben, on a envie que ça continue encore et encore. La nuit tombée, évidemment, on choisit de rentrer, et là on est invité par les hommes de la tribu à venir partager le cava sous le banyan centenaire. Et donc le cava, c'est la boisson traditionnelle du Vanuatu, qui est préparée à partir des racines de la plante du même nom. Il se trouve qu'à Tana, ils sont très à cheval sur la coutume, donc on l'a goûté de manière en plus préparée de manière traditionnelle, c'est-à-dire que les racines sont mâchées par les jeunes hommes du village, puisque les vieux, à force d'avoir mâché ces racines-là, n'ont plus dedans. Et donc après les avoir mâchées, tout ça est pressé, etc. Puis on peut boire le liquide qu'ils en retirent. Bon, c'est pas une boisson fameuse, pour être honnête, c'est pas mon cocktail préféré. Mais finalement, après avoir vécu ça sur le volcan, on s'est dit, bon, ça y est, là, on est au Vanuatu, mais plus que d'être au Vanuatu, on est rentré dans la vie des gens, et finalement, la deuxième étape de ce voyage peut s'ouvrir. Et donc, le lendemain, on part pour Embrime. Alors, Embrime, on change de catégorie. Pour deux raisons. Déjà, c'est plus un petit volcan. L'île entière est un volcan. Le sommet a plus de 1000 mètres d'altitude. Et c'est pas la même facilité d'accès. On monte dans un petit avion de brousse d'Air Vanuatu. On vous pèse à l'entrée de l'avion pour savoir si vous prenez pas trop de bagages avec vous. Et l'aéroport sur lequel on atterrit, qui s'appelle l'aéroport de Craig Cove, en fait, c'est une bande de terre qui sert de terrain de football aux gamins du village. Il y a une petite case qui abrite la balance pour le retour, et puis c'est tout. On prend un nouveau à 4x4, on fait quelques heures de route pour aller sur le village de Lalinda, et puis là, étant donné qu'on ne fera pas l'aller-retour dans la journée, il faut qu'on cherche les porteurs qui vont nous accompagner pour le lendemain. Donc on va au Nakamal, boire un nouveau le cava pour pouvoir rencontrer les porteurs. Là, je commence à me rendre compte que cette boisson n'est vraiment pas le truc que je préfère dans la vie. Et on part le lendemain matin, du coup, avec nos porteurs pour 3 jours. Là, c'est vraiment la jungle tropicale par excellence. Donc, les espèces de pentes ravinées par les pluies avec une végétation luxuriante. Je crois qu'on fait probablement 6-7 heures pour monter l'intégralité du cône. Et on arrive au sommet sur une caldeira, donc c'est ce qui se produit en fait lorsqu'il y a des gigantesques explosions au volcan. Tout ce qui est dans la chambre magmatique sort, du coup il y a un gros vide et tout s'effondre. Et donc ça fait des espèces de plaines en altitude de manière très impressionnante, très plate, et celle-là fait 10 km de diamètre. Ça donne une idée par ailleurs de la taille de la chambre magmatique qu'il y a dessous, puisque ça correspond plus ou moins à ça, plutôt sur du gros volcan. Et donc sur cette plaine, il y a deux cônes qui s'élèvent. Le Bembo, qui est un cône très net, c'est le volcan parfait. Et un peu plus loin, le Maroum, qui lui est plus sur la droite, un peu plus déchiqueté, les contours incertains. Alors, on a marché pendant assez longtemps, mais nos guides nous disent « bon allez, on ne perd pas de temps, le temps est bien, on va voir le Maroum ». Et donc, on reprend une marche qui est quand même déjà assez longue, hein, parce que c'est au milieu de la caldeira, donc il y a déjà 5 km en quillé pour aller le voir. On commence à remonter. On a vraiment l'impression de marcher sur Mars, parce que là, il n'y a vraiment plus aucune forme de vie. Il n'y a que de la cendre. Il y a de la cendre grise, il y a de la cendre rouge, il y a de la cendre un peu blanche, mais enfin, c'est vraiment que minéral. À un moment, le guide nous dit... on ne s'arrête pas pendant 10 minutes parce qu'en fait, on est entre deux bouches volcaniques un peu traites. On ne sait jamais trop si elles sont actives ou pas. Donc, il ne fallait pas qu'on traîne trop longtemps. On finit par avoir le brouillard volcanique qui nous tombe dessus. Donc là, il faut sortir carrément les masques à gaz parce qu'en fait, les gaz commencent à vous prendre à la gorge. Et on finit par arriver quasi à la tombée de la nuit sur le vrai cône actif. On est stupéfait parce qu'on s'attendait à avoir un lac de lave. Et en fait, ce qu'on voit, ce n'est pas un lac, c'est une cascade. Le niveau du lac de lave a baissé, et donc en fait on voit la cheminée du volcan dessous. Et on voit trois trous, et le trou du milieu, d'où ça jaillit, et qui se jette vraiment en cascade dans les deux autres. Et donc ça, c'est un truc absolument hypnotisant. Enfin moi, je pense que c'est d'ailleurs très rare de voir la colonne d'alimentation d'un volcan. Enfin, c'est pas un truc qu'on... D'habitude, c'est toujours masqué. Et on prend le temps de, à nouveau, là aussi, s'allonger, et on... se rend compte que c'est encore un truc où le moindre faux pas serait capable de nous envoyer directement en enfer. Pour le coup, là, c'est l'expression paraît plus que justifiée. Et c'est juste hypnotisant. Vous avez non seulement ces espèces de cascades d'or qui tombent devant vous, mais y a toujours l'odeur très, très âcre des cendres volcaniques, les cendres que le vent a soulevées qui finissent par croustiller dans la bouche. Enfin, c'est vraiment une expérience complète. Et on rentre au camp. Notre guide nous fait un cadeau vraiment exceptionnel, parce que normalement, on était censé dormir sur le banc de la caldeira, ce qui est un endroit un peu plus aménagé où il y a une espèce de refuge, mais finalement, on monte les tentes au milieu de la caldeira. Et donc, on s'endort face à ces deux grands panaches rouges qui sont à 1-2 km de nous. Je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Parce que s'endormir face à ça, c'est absolument exceptionnel. Et le lendemain, du coup, on se dit, bon, on va aller voir le frère jumeau, on va aller voir le Bembo. Là, il faut qu'on emmène une corde, carrément, parce qu'on peut pas... En fait, il faut descendre dans le cratère pour aller voir ce qui s'y cache. Bon, l'ascension n'est pas particulièrement difficile, si ce n'est qu'on est encore à nouveau sous les tropiques, et que du coup, on arrive là-haut ruisselant de sueur. Et donc, on descend dans le cratère, et on voit un lac de lave... Je ne sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs, parce que le mot océan de lave serait peut-être un peu plus adapté, parce que je trouve que j'en ai vu maintenant quand même pas mal. Et le Vanuatu est situé en fait à un endroit qui est une zone de subduction, donc normalement les volcans sont plus explosifs que ce qu'on peut voir par exemple à Hawaï ou en Éthiopie, où là les lacs de lave sont plutôt placides. Là effectivement on voit de la lave, mais le truc bouillonne, on écoute le bruit. On a vraiment l'impression d'être au bord de la mer, un jour de tempête, où il y a un ressac et des vagues qui se fracassent contre la paroi. Et c'est vraiment ça, il y a une espèce d'océan liquide, une fournaise qui bouillonne, des lambeaux qui arrivent sur les bords du cratère et qui ensuite s'écoulent lentement. Et on se dit, ouais, je pourrais presque me transposer dans ma ville natale de Saint-Nazaire, j'aurais le même bruit. C'est juste qu'on a changé l'eau par autre chose. Et là, notre guide nous dit, bon, attendez, on va voir un petit peu plus loin, au fond de l'autre cratère, là, il y a un panache un petit peu plus loin qui s'élève, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, on se retrouve à marcher sur des crêtes, j'en ai encore des frissons aujourd'hui, parce que, enfin, ces volcans-là, c'est des accumulations de couches et de couches de cendres depuis des milliers d'années, qui sont pourries par les gaz acides, pourries par les tremblements de terre, il y a des failles traites de partout... Enfin, on sent bien qu'on marche dans un terrain qui est pourri, quoi. Et donc, on va quand même un petit peu plus loin. Et là, on arrive près d'un trou vertigineux, et il y a un deuxième lac de lave. Et on était super contents de voir celui-là, parce que pour le coup, personne ne savait qu'il y avait un deuxième lac de lave à cet endroit-là. Et là aussi, on aurait pu rester, je pense, des heures et des heures à regarder ce truc-là, parce qu'on est vraiment... C'est une fenêtre sur le cœur de notre planète, finalement, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde de voir ça. Alors, il se trouve que depuis, les lacs de lave ont disparu, parce qu'il y a eu, pas longtemps après, une grande éruption. Ce qui est quand même assez hallucinant et qui montre bien que ce volcan-là est, dans le fond, une espèce de gigantesque monstre, parce qu'il y avait quand même trois fenêtres vers l'enfer pour pouvoir permettre à toute la furie souterraine là, de s'écouler à la surface. Évidemment, c'était pas assez, quoi. Il a fallu qu'en plus il fasse une énorme éruption pour contenir l'espèce d'énorme pression qu'il y a dans le sous-sol Et donc ce truc est vraiment une cocotte minute incroyable, et je ne serais pas surpris que dans les années qui viennent, il y ait d'autres choses qui reviennent à la surface, parce que c'est vraiment un volcan super actif. Bon, on redescend pour se rendre vers le dernier volcan. On doit reprendre l'avion. Alors, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment au bout du monde, puisque une fois rentré dans l'avion, le pilote nous dit on est trop lourd, en fait, on ne peut pas décoller. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui restent. Là, tout le monde se regarde en chien de faïence dans l'appareil pour dire qui va lâcher le premier. Et il se trouve que finalement, on réussit à trouver un arrangement pour qu'il fasse un aller-retour qui n'était pas prévu pour déposer des gens à un village plus loin. Bon, bref. Donc, on finit par décoller et le lendemain, on arrive sur l'île d'Ambaye. L'île d'Ambaye, c'est de loin l'île paradisiaque par excellence. Il y a la jungle partout. C'est très vert. Il y a un petit lac turquoise au sommet qui est très joli, qui s'appelle le lac Vouy. Et au milieu de ce lac, il y a un petit cône volcanique tout gris, qui s'appelle le cône Manaro, qui est né en fait de la précédente éruption du lac en 2005. Ce cône est apparu au milieu du lac. Le lac était devenu pendant un moment rouge, et puis il est revenu sur le bleu turquoise. Et donc moi, l'objectif en allant là-bas, en fait, c'était d'aller en bateau sur le cône. Je me suis dit, personne n'a jamais fait ça, on va aller planter le drapeau du Vanuatu sur le cône Manaro. Alors la petite difficulté, c'est que si le lac est bleu turquoise, c'est parce qu'en fait, c'est un lac acide. Il faut accepter de prendre quelques risques. Alors je vous passe le choix du bon bateau et de la bonne matière plastique pour pouvoir y aller. On se dit, on en prend deux de rechange au cas où il y en a un qui crève. On choisit de prendre quelques cordes parce qu'on se dit, c'est pas avec des rames en plastique qu'on va réussir à revenir à bon port si jamais il y a un problème. Et là, à nouveau, on arrive au dernier village avant le début du trek pour trouver les porteurs et demander l'autorisation. Et alors là, j'ai un souvenir avec le Kava qui était vraiment... on a eu l'autorisation du CF, je pense, à 19-20 heures la journée avant l'ascension. Et pour fêter ça, le chef est revenu avec un seau de Kava. Mais lorsque je vous dis un seau, c'est vraiment vous voyez, votre seau de peinture de 10 litres, là, c'était ça. Et il fallait tout finir avec les porteurs, on était 5. Et vraiment, j'ai passé une nuit horrible. Non pas que ça donne particulièrement la gueule de bois ou quoi que ce soit, mais juste, c'est un peu dégueulasse, quoi. Donc, vraiment très mal dormi. Les porteurs aussi, je pense, non plus. Et donc, le lendemain matin, 7h du mat, tout le monde sur le pont. Et alors là, c'est une expédition. Le chef du village nous dira qu'on est en 20 ans, le troisième étranger, en fait, à atteindre le sommet du volcan. Et donc, effectivement, il y a un chemin au début. Après 2 heures de marche, il n'y a plus de chemin, puis il faut y aller à la machette. On passe sous des arbres, sur des arbres. Enfin, la progression est vraiment là. J'avais jamais vécu la jungle. Là, on est vraiment en plein dedans. C'est difficile, c'est la boue, c'est insupportable. On colle de partout. Et puis, il y a un moment où le terrain commence à redescendre, donc on comprend qu'on est rentré dans la caldeira aussi, qui est au sommet, mais qui est un petit peu masquée tellement il y a d'arbres. Et puis, les arbres commencent à devenir plus petits, plus gris, un peu plus rabougris. Et donc, on finit par arriver sur le lac. Et en fait, c'est les émanations du lac qui pourrissent tout là-haut, qui font que les arbres du rivage ont beaucoup, beaucoup plus de mal à pousser. On établit notre campement. Alors, notre campement, c'est... C'est un grand mot parce qu'on a acheté une bâche plastique qu'on essaye de mettre sur le sol et qui fait aussi office de toit en même temps. Le paysage est pour le coup vraiment magnifique. On commence à faire quelques repérages le lendemain pour descendre au niveau du lac. Je manque de me transpercer le torse en grimpant sur un arbre qui s'avère tellement pourri qu'en fait je retombe sur le tronc lui-même après. On essaye de faire sécher comme on peut nos affaires, et à un moment, il y a un nuage qui passe, et là, on entend un gros boom. Et donc, en fait, on en déduit que même si on nous avait dit que le volcan n'était pas particulièrement en colère à ce moment-là, en fait, visiblement, il y a quelques moments où il s'énerve un petit peu. Et donc, on s'endort en gardant à l'esprit qu'il y a le monstre qui est toujours pas loin. La nuit, évidemment, il pleut, donc il faut se réveiller toutes les 30 minutes pour vider la bâche qui, à un moment, je me réveille, elle est à 10 cm de mon nez, tellement il y a de l'eau qui s'est accumulée dedans. Et le lendemain matin, on descend sur le rivage avec notre canot qu'on s'apprête à gonfler. Et alors, c'est hallucinant parce que, en fait, en faisant ça, les porteurs nous prennent vraiment pour des dingues. Mais moi, je les prends pour des dingues lorsque je les vois marcher au bord du précipice du lac. Il y a vraiment des falaises qui peuvent être hautes de 50 mètres. Je les vois marcher au bord et de loin, on voit les failles terrain qui est prêt à se décrocher. Et en fait, on se dit, on n'a pas du tout le même rapport à la mort par rapport aux locaux. Et eux, effectivement, ils ne comprennent probablement moins le volcan. Et donc, finalement, ce qui nous fait peur aux uns et aux autres est vraiment différent. Et donc, on met le bateau à l'eau, on attache la corde. Et là arrive un conseil de mon guide, dont je me souviendrai toujours, qui me dit, quitte à tomber dans l'acide, autant tomber dedans sans vêtements. Parce que sinon, l'acide va imprégner tes vêtements, et le temps que tu reviennes, l'acide sera toujours dans les fibres, et il faudra enlever tes vêtements avant de pouvoir te rincer avec les quelques bouteilles d'eau douce qu'on a. Donc, on se fout en caleçon, et on monte dans cette espèce de canot. On se rend compte très vite qu'on va pas pouvoir y arriver, en fait, parce que le volcan est beaucoup trop loin, on n'a pas prévu assez de cordes, et que l'état de la camelote chinoise qui nous sert de bateau nous permettra pas d'aller atteindre le cône, dont, en plus, on a entendu visiblement qu'il n'était pas tout à fait endormi, donc on dit on ne va pas couvrir le risque. On fait quelques prélèvements d'acide pour l'observatoire volcanologique du Vanuatu, et on décide de plier le camp. Et en rentrant, en fait, ce qui était absolument fantastique, c'est qu'on a pu montrer des images du volcan aux enfants du village, qui, je pense pour certains, voyaient aussi en fait le sommet de leur volcan pour la première fois de leur vie. Et il se trouve qu'en fait, bon, les avertissements du volcan n'étaient sans doute pas totalement anodins, puisque quelques mois après, il y a eu une très grande éruption. La proximité de la lave et de l'eau, c'est vraiment quelque chose qui fait très mauvais ménage en général. Ça donne des explosions, des éruptions très explosives. Et en fait, toutes les plantes quasi de l'île ont été empoisonnées tellement il y a eu de cendres qui sont retombées sur l'île. Et l'île a été évacuée pendant plus d'un an. C'est la première fois de l'histoire du Vanuatu que l'île était totalement évacuée. Et ils sont revenus, en l'occurrence, que très récemment. Et donc ça, c'était mon aventure au Vanuatu, et je pense que finalement, ce qui m'a plu dans ce pays, c'est évidemment l'activité volcanique, parce que c'est même ce pourquoi j'y suis allé. Mais j'ai coutume de dire qu'en fait, les volcans, c'est aussi un petit peu un prétexte, parce que lorsqu'on va voir ces volcans-là, de facto, on découvre aussi les gens qui vivent à leur côté. Les volcans ont toujours attiré les hommes, parce que ça rend les terrains extrêmement fertiles. C'est très lié aux différentes croyances qu'on peut avoir. Et la manière dont on a été reçu, accueilli par ces gens, moi je me souviendrai toujours du Vanuatu comme quelque chose de totalement hors du temps. Et aussi un endroit qui, même si les volcanologues là-bas font un travail formidable, où il y a encore tellement de choses à découvrir, que finalement un petit amateur dont c'est juste la passion, peut aussi apporter des choses à la compréhension de ces volcans-là et faire en sorte qu'ils soient mieux compris. Et donc du coup, d'une certaine façon, ce que j'étais allé chercher au Vanuatu, je l'ai trouvé, et peut-être même encore un peu plus.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi tu as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Parce que finalement, j'ai commencé à avoir fait un petit peu pas mal de volcans autour de la planète. Mais en fait, de un, cette variété dans les volcans, je ne l'ai pas trouvée ailleurs qu'au Vanuatu. Et de deux, dans ce qu'on a par exemple en Indonésie, où il y a aussi plein de volcans, en fait, on est quand même toujours plus proche de notre civilisation occidentale. Je veux dire, il y a les 7-Eleven dans la rue, on peut se prendre un Americano, etc. Au Vanuatu, j'ai pas eu de café pendant 2 semaines, quoi. Et c'était vraiment un moment hors du temps. Et on a été accueillis avec une gentillesse absolument incroyable par des gens qui auraient très bien pu ne rien avoir à foutre de nous, finalement. C'est pour ça que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué.
Comment on tombe dans la volcanologie ?
Écoute, c'est une excellente question, qui mériterait probablement quelques heures de psychothérapie. J'ai franchement pas la réponse à cette question. J'ai toujours été fasciné par ça depuis tout petit. Lorsque j'étais à la maternelle, je ne dessinais que ça. Je pense qu'au point que mes parents ont probablement dû s'inquiéter. J'ai grandi avec les images d'Arun Taziev, hein, qui était mon idole absolue. Et en fait, je pense que je suis fasciné parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce type de phénomène. Je veux dire, on est habitué à voir les collines, les montagnes, comme des objets finalement intemporels. Hein, et lorsqu'on côtoie un volcan, en fait, on se rend compte que tout ça peut disparaître en une poignée de secondes et tout peut être remodelé en un claquement de doigts. Donc je pense que c'est ça qui me fascine dans le phénomène.
Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu poétique dans les volcans, dans le sens où c'est vraiment la destruction et la fureur incarnée. Mais en même temps, de cette destruction, de cette fureur, plusieurs centaines d'années plus tard, naît la vie et une végétation luxuriante.
Ouais, c'est vrai que c'est la destruction créatrice, dans un sens. En fait, partout où on va sur les volcans, déjà, je pense qu'il y a une satisfaction à... un volcan, c'est un système de défense naturelle, quoi. Je veux dire, le truc, c'est que de la roche, il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger... c'est des reliefs ultra ardus. Bien souvent, ils ont l'excellente idée d'aller se foutre dans des zones où il fait très chaud ou très froid. Donc c'est rude, donc il y a cette satisfaction d'avoir, je pense, fait un truc déjà difficile lorsqu'on le fait par ses propres moyens. Et en plus, on se rend compte que la vie est toujours là. Il y a des volcans en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des oiseaux qui vont pondre leurs œufs dans la cendre chaude parce que ça les évite de couver. À Hawaï, il y a des coulées de lave. 6 mois après, il y a une plante qui germe à cet endroit-là. Et même très récemment, en Éthiopie, il y a un volcan qui est... alors, pas un volcan à proprement parler, mais du moins des sources très acides. Et on retrouve des traces d'ARN dedans. Donc en fait, on sait que finalement, même la vie a éclos à l'ombre des volcans. Et donc, je ne sais pas ce qu'on va chercher sur ces montagnes, si c'est de l'adrénaline ou autre chose. Mais il y a une partie de moi qui aime bien penser que aussi on fait un petit peu presque un retour aux sources.
Bon, j'imagine que quand tu te lances à l'assaut de volcans, ça nécessite beaucoup de préparation. Est-ce que tu voyages toujours très préparé et est-ce que maintenant chacun de tes voyages est une expédition ou est-ce que tu laisses de l'improvisation quand même ?
Je laisse pas mal d'improvisation parce qu'au final, sauf aller dans des zones très particulières, quelqu'un qui a la motivation, je pense... peut faire exactement ce que je fais sur les volcans. Il y a une dose de préparation dans le matériel qu'on choisit d'emmener, enfin le masque à gaz, ce genre de choses. Il y a une dose de préparation dans choisir le bon volcan qui va présenter un intérêt au moment où on va y aller, mais ça reste toujours un coup de poker à la fin. Je veux dire, le volcan peut très bien décider de s'arrêter le jour avant qu'on arrive. Il peut très bien avoir une baisse d'activité ou au contraire être totalement inapprochable. Donc en fait, il faut toujours laisser un petit peu de place au doigté compte tenu des conditions qu'on trouve sur place.
Qu'est-ce que tu vas toujours prendre avec toi dans ton sac quand tu voyages ?
Mon appareil photo et mon drone, parce que c'est des outils assez utiles en fait pour amener de belles images sans trop s'exposer soi-même, dans le cas du drone. Et depuis peu, j'ai investi dans une petite caméra thermique qui permet aussi de savoir où est-ce que sont tombées les projections récentes, ce qui est toujours utile pour savoir si on s'aventure en terrain dangereux ou pas.
Ces images que tu ramènes avec ton drone et tes caméras, comment tu les exploites et comment tu t'en sers pour raconter tes voyages ? Et est-ce que tu as un médium préféré pour le faire ?
D'une chaîne YouTube sur laquelle je partage les images que je ramène de mes voyages. Et j'essaye aussi de raconter l'histoire qu'il y a autour de ces volcans, parce que à nouveau, il y a toujours des choses avec les gens qui vivent à côté qui sont intéressants à rapporter. Plus récemment, là, j'ai un livre en préparation qui devrait sortir au mois de septembre, qui s'appellera tout simplement « Volcan ». Dans lequel je partage mes plus belles images et aussi quelques anecdotes glanées au fil de mes voyages sur ces magnifiques montagnes.
Bon, alors tu racontes des rencontres souvent à base de cava avec les locaux. De manière générale, comment tu considères la rencontre en voyage ? Et est-ce que tu as une rencontre qui t'a particulièrement marqué ?
Je pense que je suis assez solitaire potentiellement en voyage. Après ces expériences sur les volcans, j'aime bien les partager. Et après, oui, évidemment, j'ai eu des rencontres qui m'ont marqué. À nouveau, au Vanuatu, notre guide Thomas, je le revois régulièrement parce qu'on a des projets de retourner faire des choses ensemble là-bas. Même si, dans la majorité des cas, je fais des très belles rencontres sur place, mais qui sont souvent pas suivies. J'ai envie de dire, le Vanuatu était encore à ce titre un petit peu l'exception.
Pour se parler du retour maintenant, est-ce que tu as atteint du blues post-voyage, du blues du retour ? Et si c'est le cas, comment tu te soignes ?
Alors pas tellement, parce que je pense que lorsqu'on rentre par exemple de quelque chose comme le Vanuatu, en fait, retrouver un petit peu ses marques dans un contexte qu'on connaît, mine de rien, ça fait du bien. Et le fait aussi de partager ses voyages, de partager ses images avec une communauté, en fait, ça prolonge aussi le voyage. Et donc, en fait, lorsque je rentre, je sais que c'est pas fini, en fait. La page continue de s'écrire et ça m'aide à patienter avant le prochain.
Et justement, pour se parler du prochain ?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'aimerais faire. Dans l'immédiat, moi, j'aimerais beaucoup déjà retourner... J'ai vécu un truc absolument exceptionnel au Krakatau, en Indonésie, qui est un volcan très célèbre, dans le détroit de la Sonde, entre l'île de Sumatra et l'île de Java. Et en fait, lorsque j'y suis allé en fin 2018, c'était un volcan extrêmement explosif, qui faisait là aussi à peu près 300 mètres de haut. C'est la première fois de ma vie où je m'en suis vraiment pris sur la gueule, où il y a des bombes qui me sont passées par-dessus la tête et où il fallait regarder où est-ce que ça atterrissait. Et je vous assure que c'est des moments assez intenses. Et à peine 10 jours après, en fait, le volcan s'est effondré dans la mer suite à une énorme explosion. Le campement qu'on avait sur l'île en face a été englouti sous 25 mètres d'eau. Il y a eu, je crois, 400 morts dans le tsunami sur l'île de Java. Donc, et depuis, la morphologie, du coup, est totalement changée. Donc, j'aimerais beaucoup aller retourner voir ça, parce que c'est quelque chose où je me dis que, pour le coup, à quelques jours près, j'étais pas loin, mais aussi j'ai l'attraction de voir ce que c'est devenu, dans un sens. Et le Graal ultime, c'est le mont Erebus en Antarctique, qui est un volcan au pôle sud, avec un lac de lave. C'est l'oxymore par définition, et je crois que sont descendus dans le cratère moins de gens que de personnes qui ont marché sur la Lune. Donc ça, c'est mon petit challenge personnel.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation. C'est à toi.
Donc mon idole, Arun Tadiev, avait coutume de dire que... le composé qui engendre dans l'âme la passion des volcans, c'était beaucoup d'émerveillement, un peu de goût du péril et l'attrait de l'inconnu. Donc si y a certains de tes auditeurs qui se retrouvent dans cette description, qu'ils n'hésitent plus longtemps.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.